Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Ce matin, ce dimanche de Pâques, dans Chrétien d'Orient sur France Culture, nous avons la chance de retrouver Mgr Charbel Mahalouf pour nous éclairer sur ce chemin de rédemption. Vous êtes maître de conférences en patristique à l'Institut catholique de Paris, responsable de la chaire patrimoine arabe chrétien à l'Institut chrétien d'Orient. Nous vous avions reçu plusieurs fois déjà, et surtout l'année dernière lorsque vous étiez venu pour évoquer l'histoire d'Antioche, et plus un peu avant sur Saint-Julien-le-Pauvre, voilà, dont vous avez été en charge au cœur de Paris pendant plusieurs années. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Sébastien, et bonjour à toute l'équipe.
J'ai tenu à votre présence ce matin à nos côtés, alors que je sais votre matinée est bien remplie. Vous donnez la messe à 9h45 à Saint-François de Molitor, dans le 16e arrondissement, où nos auditeurs parisiens pourront vous retrouver. Nous célébrons ce dimanche de Pâques le triomphe de Jésus sur la mort. En tant que chrétiens, nous croyons que la résurrection de Jésus a confirmé qu'il était le Fils de Dieu sur terre pour apporter le salut à l'humanité, racheter nos péchés par son sacrifice de compassion. Quels sont les premiers mots qui vous viennent en ce matin pour nous expliquer le triomphe de la vie sur la mort ?
Les premiers mots sur la résurrection, c'est l'annonce de l'ange aux apôtres. Il n'est plus là, il est ressuscité. C'est la joie de la résurrection, la joie du triomphe sur la mort, sur le péché, mais aussi cette ouverture à l'infini de l'espérance que Jésus donne aux apôtres, aux femmes mirophores, à Marie-Madeleine, et à toute l'humanité. Nous sommes sauvés par la lumière qui a jailli du tombeau vide. Le tombeau vide, je dirais, est le dernier mot du Christ, et non pas la croix. La croix est un passage à la gloire, à la vie, à la résurrection et à l'espérance. Sinon, la croix serait un échec et une finitude de, ou une fin de toute la mission du Christ sur la terre.
Monseigneur, vous avez l'habitude de prêcher. Comment expliquer aux non-croyants l'importance essentielle de la Semaine Sainte puis de Pâques pour les chrétiens ?
Alors d'abord, je dirais, il faudra expliquer l'importance de la Semaine Sainte et de la résurrection aux chrétiens. Et après, aux non-chrétiens, parce que la Semaine Sainte est le mystère pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, est le centre, le fondement et le cœur de notre croyance, de notre foi et de notre expérience chrétienne. Comme nous dit saint Paul, sans la résurrection, notre foi est vaine, c'est-à-dire il n'y a plus de sens à notre foi. Comme je disais, la croix sans la résurrection n'a aucun sens. C'est la résurrection qui donne véritablement le sens à la croix et à toute la foi chrétienne, à l'expérience chrétienne. Je dirais la première chose, venez et voyez. Donc j'invite les chrétiens et même les non-chrétiens à venir goûter la Semaine Sainte, à venir vivre cette expérience, l'expérience de la mort, du silence, mais aussi de la gloire, de la louange après la résurrection. La meilleure façon de voir et de d'expérimenter, c'est vivre la prière, cette semaine qui est chargée de prières et de grâces pour nous tous. Et à travers l'expérience, nous pourrons justement voir l'importance de cette Semaine Sainte, de la mort et de la résurrection, qui aussi préfigure notre mort et notre propre résurrection. Donc, c'est l'avant-goût du ciel, si vous voulez. La Semaine Sainte nous fait entrer dans le mystère de la vie éternelle.
Une sensation, enfin une expérience qui est partagée, parce que la prière se fait, c'est faite à des horaires différents, avec des offices nocturnes qui sont toujours très impressionnants.
Et il y a des offices le matin, l'après-midi et le soir à 19h. Évidemment, il faudra voir dans les églises, les horaires, etc. Mais ces offices sont ouverts à tout le monde, aux chrétiens comme aux non-chrétiens, pour justement vivre... l'essentiel de la foi chrétienne, encore une fois, le Christ mort et ressuscité. La résurrection est le message par excellence de la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas un cheminement de douleur et de souffrance. Parce que souvent, on parle de la croix, on met nos croix partout, ce qui est évidemment essentiel et important pour nous et pour notre témoignage. Mais il faudra toujours lier et comprendre et même vivre la croix à la lumière de la résurrection. Sinon, la croix, encore une fois, serait la mort, serait synonyme de la malédiction, comme c'était dans l'Ancien Testament, serait un signe d'échec et de souffrance. Et souvent, malheureusement, et parfois, on a décrit le christianisme comme un chemin de douleur, de souffrance, de culpabilisation, alors que pas du tout. Le Christ nous libère de tout cela. Et la résurrection, ce n'est que la délivrance de la culpabilisation, de ce sentiment de douleur et de la souffrance. Cela dit, je ne suis pas en train de dire que tout va bien, il y aura plus de souffrance. Mais c'est une chose de dire la souffrance est un moyen, et c'est une autre chose de dire c'est le but, il faut tout faire pour souffrir. Ah ben non, il faut tout faire pour vivre, dans l'espérance du Christ ressuscité. Après, la croix, comme c'était le cas d'ailleurs pour Jésus lui-même, c'est un passage, il faudra passer par là, mais la résurrection est le message par excellence de la foi chrétienne. Donc, le christianisme est la religion de l'espérance et la religion justement de la joie et non pas de la tristesse et de la douleur.
Monseigneur Charbel Malouf, vous appartenez à une tradition orientale, l'église melkite, dite grecque catholique. Beaucoup d'icônes dans votre tradition et on voit cette scène de descente aux enfers revenir bien entendu de manière très régulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette notion ?
Exactement, dans la tradition byzantine, il y a deux icônes qui représente un peu le mystère pascal, c'est-à-dire la résurrection du Seigneur, le jour de Pâques. Mais la plus importante et la plus répandue, c'est la descente du Christ aux enfers, où le Christ, dans un geste de résurrection, il tient la main d'Adam et d'Ève. Et bien sûr, à travers Adam et Ève, tous les justes, qui attendaient justement le salut du Christ, et à travers eux, tous les humains sont portés par ce mouvement d'ascension, ce mouvement de résurrection, où ils sont appelés à sortir de l'enfer pour aller vers la vie éternelle, vers le paradis. Évidemment, c'est symbolique, mais cela montre que la résurrection est cette ouverture du monde de l'enfer au monde du ciel. Le Christ, c'est lui qui nous libère, qui ouvre les portes du ciel aux justes, aux saints, mais aussi à tous les hommes qui veulent vraiment suivre le Christ. Et on a une autre icône, celle des femmes mirophores, qui est moins répandue, mais qui est quand même très importante, où dans la tradition byzantine, on met l'accent sur les femmes mirophores qui sont venues pour embaumer le corps du Christ. Cela montre aussi l'importance d'abord des femmes dans l'annonce de la résurrection. C'est Marie-Madeleine qui annonce aux apôtres le Seigneur est ressuscité. Et je dirais, les premières apôtres, ce sont les femmes. À travers cet épisode, cela montre combien la foi chrétienne aussi donne une importance à la femme dans l'annonce de la résurrection et de la bonne nouvelle. Mais la première icône, donc celle de la descente aux enfers, est la plus répandue. On la retrouve partout dans les églises de byzantines et même orthodoxes, catholiques, orientales. Et cette icône, finalement, justement, reflète la joie, parce que on voit aussi que le Christ est en blanc, en or, la victoire. C'est le roi de l'univers qui vainc la mort, le péché, et qui donne cette espérance à Adam et Ève qui attendaient ce moment qui est un moment primordial, un moment qui change véritablement toute la vie des saints et des justes et de ceux qui vont venir après la résurrection du Seigneur.
Comment pouvez-vous nous expliquer le concept de résurrection de la chair, quelque chose qui est assez mal compris, j'allais dire de nos jours, mais je pense depuis de longue date en tout cas. Dès le début, voilà.
On voit très bien dès le début, d'ailleurs, un des problèmes qui va surgir dans l'Église primitive au 1er siècle, d'ailleurs ici en France, à Lyon, avec l'évêque Saint-Irénée de Lyon, contre les gnostiques. Donc ce sont des chrétiens qui ont élaboré une synthèse théologique et philosophique, mais qui niaient l'importance de la chair, voire même qui voyaient dans la chair la matière, la création, quelque chose de mauvais par nature. Évidemment, dans cette perspective, tout ce qui est chair, incarnation, résurrection de la chair, n'a aucun sens pour eux. Il faut tout faire, justement, pour se débarrasser de la chair. Et Irénée de Lyon, dans sa réponse que nous avons reçue dans son ouvrage « Contre les hérésies », le livre 5, justement, parle beaucoup de la résurrection de la chair. Et pour Irénée, et d'ailleurs pour l'Église, la résurrection concerne la chair. Et nous ressusciterons avec notre chair. Alors, il y a eu tout un débat dans l'Église primitive. Quelle chair ressuscitera ? Est-ce que c'est la chair terrestre, biologique, ou une autre chair plutôt ressuscitée, glorieuse, comme nous parle d'ailleurs saint Paul dans son épître aux Corinthiens, la première, chapitre 15. Et saint Irénée, après Tertullien, Origène, Grégoire de Nice et tous les grands-pères vont aborder ce sujet. Il y a plusieurs perspectives, mais en tout cas, tous les pères, et d'ailleurs après eux, toute l'Église jusqu'à aujourd'hui, annoncent la résurrection de la chair. C'est-à-dire que c'est la chair qui va ressusciter. Pour certains, Tertullien, par exemple, c'est la chair telle qu'elle est aujourd'hui. Mais pour les pères orientaux, je dirais, et grecs, plutôt c'est la chair glorieuse. C'est-à-dire la chair illuminée, c'est la même entité, mais d'une façon autre, qui va ressusciter. On a un exemple dans l'évangile lui-même. Le Christ qui apparaît à Marie-Madeleine et qui Marie-Madeleine ne le reconnaît pas. Donc il y a une véritable transformation de la chair. Vous imaginez quelqu'un avec qui vous avez vécu 3 ans et d'un seul coup vous ne le reconnaissez plus. Donc il y a un changement. Mais quand même, c'est la chair qui est là, parce que Jésus dit, voyez, venez, voyez la trace des clous, etc. Donc c'est la chair qui est ressuscitée, c'est la chair glorieuse, comme nous disons avec saint Paul, avec saint Irénée et bien d'autres. Mais l'importance, c'est que le christianisme aussi, à travers cela, a changé tout notre regard par rapport à la chair. Dans la philosophie grecque, en général, la chair est le tombeau de l'âme, c'est soma sima. Alors qu'avec le christianisme, et justement la résurrection, et la résurrection de la chair est devenue, comme nous dit saint Paul, le temple de l'esprit. Donc ce n'est pas soma sima, ce n'est pas un tombeau, au contraire c'est quelque chose de glorieux, c'est le temple de l'esprit. Donc on ne peut pas imaginer la résurrection sans la chair, sans le corps humain. Le corps humain fait partie de l'être humain et le salut, concerne toutes les composantes, l'âme, l'esprit et le corps. Toutes ces trois composantes cheminent ensemble vers la résurrection qui est justement une résurrection de la chair, c'est-à-dire la chair participera à cette renaissance, à cette vie éternelle où il sera présent pour chanter éternellement la résurrection du Seigneur.
Pour continuer sur cette voie, sur ce chemin, la notion de vie éternelle, comment pourrions-nous l'expliquer? Quels sont les mots que vous diriez à quelqu'un pour l'expliquer?
Je dirais tout simplement, la vie éternelle est le début, est le fait de vivre la résurrection. Quand vous vivez la résurrection du Seigneur, votre vie change. Elle sera guidée par un mode de vie, je dirais, résurrectionnel. Votre regard change, votre corps change, votre esprit change. Et la vie éternelle, justement, est déjà là, comme nous disons en théologie, mais pas encore, pas pleinement. Mais le fait de vivre la résurrection et la foi, tout ce qui est, bien sûr, lié à cela, c'est déjà un début de la vie éternelle et un début de la paix, de la joie, puisque nous vivons, nous ressentons quelque chose vraiment de l'intérieur quand nous vivons la résurrection. Quand je parle de la résurrection, tout le monde le dit, c'est la joie de la résurrection. Et si je ne vis pas cette joie intérieurement, cela veut dire que je ne sens pas la résurrection. Donc la vie éternelle ne peut pas être comprise, ne peut pas être d'ailleurs expérimentée sans la résurrection. La résurrection est la porte qui ouvre à la vie éternelle. Et si le chrétien, aujourd'hui, vit la résurrection, vit cette foi qui l'illumine, qui le change, qui le transforme, il est déjà dans la vie éternelle, puisqu'il est en présence du Christ. C'est quoi la vie éternelle, je dirais? C'est prendre compte de la présence du Christ dans ma vie. Cette présence qui change mon regard, ma vie, ma parole, mon comportement. Une fois que vraiment la présence du Christ glorieux et ressuscité change ma vie, je suis déjà dans quelque chose qui ressemble à la vie éternelle.
En tant que prêtre, à chaque fois que vous officiez, que vous dites la messe, vous avez la conscience et la présence d'esprit, allais-je dire, mais grand esprit, de ce dont vous me parlez maintenant, c'est-à-dire d'incarner vous-même ce lien, cette transmission avec les fidèles.
Tout à fait. Je pense qu'à chaque fois que je célèbre l'Eucharistie, la messe ou la divine liturgie, comme on dit en Orient, je vis ce mystère pascal, la mort et la résurrection. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est cette communion au Christ. Vous voyez, la communion au sang et au corps du Christ, c'est déjà aussi le début de la vie éternelle. Parce qu'on est en union, véritablement. Et je dirais aussi aux paroissiens, un contact de chair à chair. C'est la chair de Christ qui est là. Et c'est sa présence, c'est lui. Et là, c'est fort. Parce que vous vivez quelque chose d'exceptionnel. Évidemment, quelque chose qui se vit dans la foi. Hein? Je ne peux pas expliquer scientifiquement cela. Mais tout ne s'explique pas par la science, mais par quelque chose qui se vit intérieurement. Et cela se vit pleinement dans la messe, où on vit la mort et la résurrection. Et encore une fois, le message par excellence du Christ, c'est le message de l'amour, le message de la joie, le message de la paix. Et c'est ainsi que la résurrection change notre regard, notre prise de parole, puisque comme chrétiens croyant en la résurrection du Seigneur, nous avons justement cette mission de vivre la paix, la joie, le pardon et l'amour, même si aujourd'hui, par exemple, en Orient, nous vivons des persécutions, des guerres, etc. Le dernier mot devrait être toujours le pardon.
Je voudrais saluer, avant de continuer notre échange, la mémoire de Jérôme de Roy, qui nous a quittés le 17 février dernier, dans sa 82e année. Issu d'une famille provençale fort ancienne, grand érudit, soutien des chrétiens d'Orient, un auditeur fidèle de notre émission qui m'écrivait une fois par mois pour me partager ses impressions. Ce qui me permet aussi de remercier, de saluer tous ceux qui nous écoutent, qui m'écrivent, nombreux, et à qui je demande de bien vouloir m'excuser de ne pas toujours répondre dans les délais. Voilà, merci à tous de votre fidélité. Faute avouée en ce dimanche de Pâques, faute pardonnée. Qu'en pensez-vous?
Bien évidemment, mais je pense aussi à Jérôme, je prierai pour le repos de son âme, Et je pense aussi à tous les ceux qui écoutent notre émission. Et évidemment, je leur souhaite un très bon dimanche de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Restons dans cette espérance. Et comme nous chantons dans notre tradition melkite orientale, et nous lisons aussi, nous contemplons une homélie de Saint Jean Chrysostome sur la résurrection qui est magnifique. Et à un moment donné, Saint Jean nous dit « Venez les premiers et les derniers, réjouissons tous de l'agneau, il est offert pour tout le monde. Et surtout, réjouissez-vous du pardon qui jaillit du tombeau vide. »
Je remercie Séverine Cassard pour la réalisation de cette émission, Claire Poinsignon et Julien Douminc pour la technique. Nous retrouvons maintenant Solae, le rendez-vous protestant. Bon dimanche. Nous sommes en musique avec la Sainte et Divine Liturgie, chantée par vous, Monseigneur.
Merci beaucoup, Sébastien. Et très bon dimanche de Pâques. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.
Christos Anesti, ec necrum thanato, thanatum batizas, gratis entis mimasi zoi, aris amenos.
Li abidu kama yabidu dukhan, wa kama yadubu shammu min kuddami wajhinnan.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور
كذلك تهلك الخطاة من أمام وجه الله وليفرح الصديقون مسرورين
Christos Anesti, ec necrum thanatum, thanatum patisas, etis entis mimasi zoi, charis amenos.
Hatha hua اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ولا تهلل
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور
المجد للآب والابن والروح القدوس
Christus eonas tonne, oh.